Bonsoir à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver pour Parler Temps qui court, une heure de conversation tous les soirs et ce soir avec la réalisatrice Carmen Castillo.
Un tango, une danse, un baiser.
Et du bout à pep et pep.
Ça y est, puis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Parlez-temps qui court.
Marie Richeux. Avec Carmen Castillo.
Dans les jours qui suivent le coup d'État de septembre 1973, entre les murs de l'ambassade de France à Santiago du Chili, vont se tisser très serrés les fils de l'histoire des deux pays. Plusieurs dizaines de militants y seront mis à l'abri, traités avec égard et accueil, jusqu'à leur départ pour certains vers différents pays européens. Dans votre dernier film, Carmen Castillo, vous élaborez un maillage très serré, cette fois entre différentes archives sonores, visuelles, des reconstitutions spatiales, une lecture des mémoires de l'ambassadeur, mais surtout de sa femme, et votre propre voix toujours, qui continue de dire que le cinéma, votre cinéma, est aussi une affaire de subjectivité et d'écriture. S'il est question d'accueil inconditionnel, d'exil, de principes face au réel, de militantisme, de choses de bien, pour reprendre l'expression, il est encore question ici des lieux, des traces et de la puissance d'évocation qu'il conserve devant le temps qui passe. Chili 1973, une ambassade face à un coup d'État. Carmen Castillo, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Soyez la bienvenue. Vous êtes à l'honneur, vos films sont à l'honneur du festival FIPADOC qui se tient du 21 janvier au 26 janvier à Biarritz. Ce sera évidemment l'occasion de voir ce film dont on va parler aujourd'hui, mais on va parler d'autres films et de discuter avec vous de l'ensemble de votre œuvre cinématographique. Je vous propose qu'on entre à la fois dans votre film et dans l'ambassade, par le son.
Debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile.
El Palacio de la Moneda deberá ser evacuado antes de las 11 horas. De lo contrario, será atacado por la Fuerza Aérea de Chile.
Salve el presidente de la República, desde el Palacio de la Moneda.
Es la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. En este momento pasan los aviones. Es posible que los extinguiese.
Yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo.
C'est vraiment par une plongée sonore qu'on entre dans votre film, Carmen Castillo, et on est au tout début. Il y a un contraste très fort entre le caractère chahuté, historique de ce qu'on entend, et le couloir que la caméra remonte, oui. Un couloir vide, calme, dans une lumière blanche comme ça, un couloir d'un intérieur extrêmement huppé, extrêmement soigné. Et ce qu'on entend là, ce sont à la fois le dernier discours d'Allende et les grainages de noms qui sont attendus avant 16h30 au ministère de la Défense nationale. Il y a même un plan comme ça sur la radio, et la radio c'est quelque chose qui va revenir énormément dans tout ce film-là. Alors si on essaye de planter le décor et ce couloir, c'est le couloir de quoi, Carmen Castillo ?
Nous sommes en train de revivre dans ce film l'événement à travers l'écoute des diplomates français. Nous sommes à l'intérieur des deux lieux que le film tourne vide aujourd'hui, dans lequel le son, la musique, les voix et les paroles de quelques témoins vont venir nous rapprocher l'événement. Ce coup d'État le plus sanglant, parce que il a écrasé une démocratie en plein essor, en plein rêve, en pleine création, et parce que son président, élu, vraiment c'est le premier président au monde qui est élu dans une alliance marxiste-léniniste, déclarée démocratique et socialiste, donc élu, va être poussé, tué, et il va se donner la mort pour mourir avec son pari de créer cette société. Et c'est les diplomates qui entendent à l'intérieur. Donc en nous sortant des deux lieux que le film va s'en servir pour raconter et faire venir ses mémoires, nous sommes dans la rue qui est traversée par les diplomates. Nous sommes donc dans l'histoire.
On sent bien que la question que vous vous posez après tant et tant de films qui ne cessent de creuser cette date, les dates d'après Carmen Castillo, parce que c'est votre histoire, parce que c'est l'histoire du Chili. Là, la question, elle est assez précise. À quel endroit l'histoire politique du Chili rencontre l'histoire politique de la France? Et ça se fait en un lieu, en effet, cette ambassade de France. Mais ça vous demande d'aller chercher le positionnement de l'ambassadeur, le positionnement de la France politiquement, les relations internationales, la diplomatie. On sent que c'est cette question-là que vous posez pour ce film-là.
Oui, et je la pose parce que je suis française et je suis chilienne. Je la pose parce que j'ai déménagé il y a 3 ans au cœur du quartier La Chapelle où arrivent les migrants. Je la pose parce que la mémoire vient toujours du présent. Elle n'émerge quand il y a urgence, quand le présent nous appelle à l'évoquer, soit pour nous abriter, nous protéger, soit pour nous alerter, soit pour nous dire, comme dans ce cas, il est possible de faire autrement. Et c'est ce présent si riche de rencontres inattendues pour moi, merveilleuses, d'écoute des paroles de ces réfugiés d'aujourd'hui qui m'ont emmené à écouter la parole des réfugiés chiliens, qui m'ont ramené le souvenir de la France qui m'a accueilli, aimable, solidaire, qui m'a ramené une histoire que je ne connaissais pas personnellement, puisque je suis une réfugiée politique française par d'autres chemins que celui du refuge à l'intérieur de l'ambassade. Ce récit m'a été raconté par des réfugiés chiliens, par le traducteur des mémoires de Pierre et Françoise de Monton, un chilien, Luis Pradenas. Et donc je suis allée à la recherche de cette histoire en me disant, voilà encore, que un acte politique libre, comme celui de Pierre de Montand et ses diplomates, va créer une jurisprudence, va ouvrir la France, à ce moment-là, à l'asile politique de tous les réfugiés d'Amérique du Sud. Donc on me dira, on est en autre temps, et bien sûr, je suis pas ingénue, nous sommes dans une autre époque, un autre temps, ça fait c'est un autre monde. Mais quand même, l'histoire, la mémoire de l'humanité, ben, on fait appel à Héraclite, à Walter Benjamin, à Hannah Arendt, ou plus loin encore, elle est là, l'histoire, pour nous dire qu'elle est toujours imprévisible, qu'on l'écrit. Et ces diplomates français ont écrit une page glorieuse de l'histoire de France.
En ouvrant leur porte de l'ambassade et contre des principes qui étaient ceux de la France, en faisant place à l'imprévu et en accueillant ces militants que vous qualifiez de humbles juste avant qu'on ouvre les micros. Je vous disais, mais finalement, comment les qualifier? Et j'attendais presque de vous que vous me disiez des partis politiques, des engagements politiques, parce que je ne voulais pas être... trop général, en fait, dans la manière de les qualifier. Et vous n'avez pas du tout qualifié par le point de vue politique. Vous les avez qualifiés par leur qualité humaine, leur humilité.
Oui, parce que l'ambassade de France a accueilli des centaines, aux alentours de 700 réfugiés chiliens. Et comme on a rappelé ici, la politique du gouvernement Pompidou hostile à Allende à cause de raisons de politique française, Mitterrand, etc. Et ben c'était, on n'ouvrait pas les portes. Et Jean-Noël Bouyane de Lacoste, ce jeune premier conseiller qui se retrouve à la tête de l'ambassade le 11 septembre, va recevoir une jeune femme qui, en pleurant, lui demande d'accueillir Eugenio Lira, grand journaliste, tout jeune. Lui, il était communiste, très très persécuté parce que sa parole était irrévérente. C'était un écrivain, un poète, il occupait la télévision publique. Bon, et Eugenio va donc, comme il le dit dans le film, ce merveilleux monsieur qui m'a reçu aujourd'hui chez lui, il dit... Je pouvais pas faire autrement. Et voilà les gestes de bien, toujours, mais toujours, il n'y a pas d'explication. Et mon voisin rue Santa Fe, il m'a sauvé la vie, ben c'était normal. Et lui, il dit c'est normal. Et moi, je voudrais dire que, m'ayant intéressé tellement au mal, à la torture, au mal, voilà que aujourd'hui, j'avais envie de dire que les gestes de bien, de ces hommes, ces actes libres, de ces femmes et ces hommes, sont violents. La violence qui est décrite dans Les Misérables de Victor Hugo, hein, le geste de bien qu'il reçoit Jean Valjean, va l'engager à vie. Son destin va changer. Et pour ces réfugiés humbles, je trouve ça magnifique parce que Françoise de Montan va accueillir des personnes qui habitaient les, ce qu'on peut dire les bidonvilles, les poblaciones et le cordon populaire, qui étaient les personnes qui ont le plus souffert face à la répression. Les hommes ont été tués, persécutés, torturés. Bon, plus tard, ça va être les femmes qui vont reprendre la lutte de résistance à la fin des années 70. De ces territoires, il y avait des prêtres ouvriers. Et ces prêtres ouvriers avaient des liens avec l'ambassadeur. Et donc, ils vont créer des réseaux d'aide pour essayer de traverser le cercle, parce que les ambassades étaient encerclées par les forces de police militaires, avec de l'astuce extraordinaire. Certains vont arriver déguisés en curés, d'autres vont arriver dans les coffres des diplomates. Mais enfin, c'est des actes volontaires, c'est pas seulement des personnes qui ont sauté le mur. Vous voyez, c'est tout un réseau de solidarité qui va accueillir dans cette résidence, les deux lieux, c'est l'ambassade et la résidence. Et la résidence, jusqu'à aujourd'hui, elle est belle. C'est une très belle maison avec un grand parc. Et donc là vont arriver ces personnes qui vont être accueillies avec une amabilité, une gentillesse, une organisation, et qu'eux-mêmes vont essayer de collaborer. Et ces gestes vont changer le destin, non seulement vont sauver la vie, mais vont changer le destin de centaines et centaines de personnes. L'amour, la reconnaissance à la France va être, pour la France, très positive, on dirait. C'est un geste qui va enclencher la grandeur de la France. C'est une histoire qui va la rendre plus forte, plus visible, plus aimable. On va avoir envie d'apprendre le français, de lire. On va avoir encore plus envie d'être proche. Voilà. Donc, c'est des gestes de bien et qui sont pas compassionnels, qui sont pas gentillets. Ils sont forts, nécessairement forts.
C'est une histoire, Carmen Cassio, que vous dites avoir découverte par vos recherches, par le témoignage des réfugiés. Et par là même, nous découvrons l'existence d'un film de Chris Marker.
Oui.
C'est un film très étrange, 1975, qui commence par une fiction qui dit « on a retrouvé des bandes ». On a retrouvé des images qui ont été faites dans ce laps de temps d'accueil de l'ambassade et vous utilisez ces images-là qui ne sont pas des bandes réelles, même si elles en ont toute l'apparence, mais des bandes fictionnelles.
À 8 heures, la télévision s'est réveillée. Les communiqués anonymes ont laissé la place à des vraies images, à de vrais discours. Nous avons eu droit à tout. Les explications, les congratulations, les adjurations, les menaces. Ce baratin est entrecoupé d'annonces des mesures, en revanche, très précises. Interdiction de tous les partis politiques sans exception. Dissolution de tous les syndicats sans exception. Appel à la délation avec prime à l'appui.
La torture, la terreur, le sectarisme, la bêtise. Lorsqu'on les a rencontrés à visage découvert, ne peuvent nous laisser indifférents. Ce sont des monstres qui méritent d'être pourfendus, surtout lorsque les victimes sont les plus déshéritées, ceux qui venaient justement d'entrevoir le visage de l'amitié. Enfin, nous appartenons à une génération qui a eu suffisamment à connaître des dictatures pour que nous soyons justifiés à nous rebeller contre celles qui apparaissent à nouveau et dont nous ne voudrions à aucun prix voir renaître chez nous les fantômes.
Les fantômes encore, Carmen Castillo. Ici, on entend donc un petit extrait du film de Chris Marker et un autre extrait qui consiste en une lecture des mémoires de Pierre de Menton, alors ambassadeur de France et qui a, avec sa femme, avec les diplomates qui l'entouraient, fait cet accueil. Pour dire aussi la manière dont vous entremêlez vos sources, comme souvent, c'est très palpable. On a commencé par des archives sonores, il y avait des archives télévisuelles, ici l'archive d'un film de Marker. Ensuite, une archive sonore que vous créez vous-même parce que c'est la lecture, comme s'il fallait nécessairement que ce soit dense et pluriel pour que ce soit vivant, quoi, pour que ça existe.
Ah, c'est bien ce que vous dites. Ouais, sans le film de Chris Marker, il n'y avait pas de film.
Ah ouais.
Non, il n'y en avait pas. Ce film tourné en Super 8. Et vraiment ce clin d'œil extraordinaire de ce cinéaste unique, qui est de rendre visible une vérité tout en la mettant en scène. Et je suis heureuse que Télévision France 5 ait accepté ce récit d'une vraie histoire sérieusement racontée, avec ces images, cet appel à ce tournage que Chris a fait ici, dans un quartier proche d'ici, avec des réfugiés chiliens et des amis, où il nous dit tellement de choses. En 28 minutes, il nous raconte une histoire extraordinaire. Et donc, sans lui, et je me demandais ce qu'il dirait, que j'utilise son film, je pense que, je sais pas, bon, et j'ai osé, parce que il jouait avec le vrai, le faux, quand il était juste, quand il était vrai. et que, bien sûr, il n'y avait pas d'image. Il y avait quelques photos, très peu, et plus rien.
De la réalité de cette vie dans l'ambassade pendant ces quelques jours. Mais ce que fait Marker, peut-être on peut dire ce qu'il y a à l'image, c'est-à-dire qu'il recrée à partir de la fiction, mais aussi d'une grande écriture, c'est un texte extrêmement travaillé, la vie quotidienne
qui
se met petit à petit à exister dans les murs de cette ambassade.
Il est juste, il est vrai. Hein, on peut discuter longtemps sur le vrai, le véridique. Là, il est tellement juste et son talent est tellement grand quand il nous dit « On ne se souvient pas, on réécrit la mémoire comme on réécrit l'histoire. » Bon, ça a toujours été son cinéma. Et donc, je suis arrivée à revoir ce film en cherchant comment raconter une histoire dans laquelle j'avais très peu d'archives. Et ça a été comme s'il me parlait, quoi. Moi, je pense que les morts ne restent jamais là où ils sont enterrés. Donc, il m'a parlé. Et comme il l'avait fait quand je l'ai connu au Chili ou plus tard en France, Chris Marker, il avait cette ironie, cette magnifique tendresse. Et je me suis dit, bon, allez, vas-y, Carmen, vas-y. Et c'est parce que il a recréer cette vérité de cette vie à l'intérieur, que je pouvais faire venir les vrais réfugiés, quelques-uns, c'est pas un film sur les réfugiés, ou faire sentir un peu tout ce que les carnets de Françoise de Montand racontent, qui est le journal de bord, quoi, jour après jour, les anecdotes et tout ce que ça impliquait. On organisait, donner à manger à 200 personnes, comment dormir, comment on défait les rideaux, comment on met les matelas, comment elle décrit ce tiraillement entre la vie diplomatique et qui doit continuer et la réalité des souffrances de ces personnes qu'elle accueille et qu'elle aime et qui, comme elle dit magnifiquement, il n'y avait qu'elle pour dire des choses comme ça. Vous m'avez donné, vous les réfugiés, vous m'avez donné quelque chose d'essentiel pour la vie. Enfin, c'est des hommes et des femmes. La femme de Jean-Noël Bouillon de Lacoste est aussi extraordinaire. Il faudrait toujours les lire, les connaître, transmettre, que ça existe. On vit dans un monde tellement dépourvu de valeurs essentielles, de solidarité, de fraternité, de justice et d'égalité, que quand on a la possibilité d'approcher ces personnes, et il y en a beaucoup, hein. Ils sont pas très peu nombreuses comme on veut nous faire croire. Il y en a beaucoup. Eh ben, j'étais si heureuse de me servir de tout ce que l'audiovisuel, de tout ce que le son, le musicien du film est formidable. Alexandre Del Torto, il a eu un prix au cinéma du réel dernièrement. Ce son de base pour faire venir des archives qui sont muets. Et puisque malheureusement le son est perdu et la cinémathèque chilienne fait des merveilles pour rattraper des archives, c'est des dons la plupart du temps de caméras qui étaient sur place en train de tourner une fiction ou en train de faire des photos, enfin c'est des archives aussi miraculé, quoi, qui arrive petit à petit à Santiago.
Mais d'ailleurs, vous parlez de ça comme ça, de lieux que vous pouvez filmer vides et qui appellent des archives comme la mémoire a besoin du présent ou parce que le présent exige qu'on appelle nos mémoires. Vous citez Françoise de Menton et vous disiez tout à l'heure, ces gestes de bien sont des gestes qui marquent violemment le destin de ceux qui les ont reçus. Évidemment, on imagine que vous pensez cela à l'inverse, Carmen Castillo, que ces gestes de bien marquent violemment ceux qui les ont faits. Et Françoise de Menton, elle a l'intuition qu'il se passe quelque chose d'historique pour tout le monde. C'est-à-dire, vous reproduisez ce moment où elle décide de prendre des notes, de tenir ce carnet de bord, en effet, de l'ambassade de France à Santiago de Chili. Et vous reproduisez ce moment où elle dit... je vais commencer à dire ce qui se passe tous les jours parce qu'il est en train de se passer quelque chose d'historique. Or, c'est une femme de diplomate, il se passe des choses historiques souvent pour les diplomates. Ils écrivent l'histoire, ils sont à des endroits de pouvoir. Ouais. Et qu'est-ce que vous voyez, vous, dans cette prise de conscience pour cette femme-là?
Françoise et Pierre de Monton avaient été très proches avant le coup d'État. Ils avaient choisi de venir au Chili. Ça les intéressait, l'expérience Allende. Ils l'ont reçu, ils se sont vus plusieurs fois. Le portrait que Pierre de Monton fait d'Allende est très intéressant, très... Il le voit. Il voit qu'il y a une tentative réelle d'une démocratie socialiste de justice et de dignité. Et il connaissait, parce qu'ils avaient des liens étroits, il finançait, l'État français aidait à financer les écoles d'une une population, on appelle population, quand un terrain vague est occupé par des sans-logis et qu'ils s'organisent et bâtissent leur maison. Donc il y a une organisation au départ, une occupation de terrain, une organisation. Et de là surgissent les maisons et une vie en commun. Et donc, je pense qu'elle a eu l'intuition que ce coup d'État chilien allait marquer l'histoire universelle et l'histoire de France. Et nous avons été reçus en France par des... milliers et des milliers de personnes qui se sont organisées dans des comités Chili. Il y a eu 600 000 personnes, des jeunes lycéens aux plus adultes, organisées partout en France. C'était beaucoup plus grand que n'importe quel parti politique. Et c'était ce Chili. Ce Chili est massacré et brisé dans un rêve éveillé, puisque nous vivions au Chili, comme je dis souvent, une société entière en état amoureux. Hein, c'est ça qu'on vivait. Et pac, donc, ça a été écrasé brutalement pour implanter, on dit, bon, pour installer ce système néolibéral qui nous gouverne, qui gouverne toute la planète aujourd'hui. C'est là que ça a commencé. Donc, elle a eu l'intuition que cet événement était non seulement atroce sur le moment, parce que barbare, fasciste, elle avait connu par le passé.
Elle écrit « Reconnaître, elle, qui a connu la Seconde Guerre mondiale », elle écrit « Je reconnais des signes de cela ».
Eh oui, et Françoise... Bouillante de Lacoste, elle était toute jeune, mais elle était militante de la résistance contre l'occupation fasciste en France. Donc ils reconnaissent, tous les signes sont là, du fascisme. Eh ben, aujourd'hui, l'alerte est grande. Et nous vivons partout, dans cette planète. Nous sommes tous, je dis, dans une prison. La planète entière est une prison gouvernée par le 1% des plus riches, des puissants. Donc, ce système qui nous gouverne, contre lequel nous nous battons, nous résistons et nous essayons d'inventer des langages, on peut ensuite faire le rappel entre cette histoire et ce qui se passe aujourd'hui au Chili. Mais ce que je voulais dire, c'est que Allende et son gouvernement, c'était bref, mais c'était une première dans l'histoire universelle, comme on disait juste avant. Mais aussi dans la manière dont il a tenté de mener à bout des valeurs et des demandes, des exigences que nous avons aujourd'hui face à cette logique économique qui nous gouverne. Et c'est des personnes qui sont redevenues nécessaires et que... Elle a eu cette sensibilité et cette intelligence pour saisir que, effectivement, après ils étaient fatigués, 2 ans après s'être vraiment battus, ils le disent aussi, Et il fallait un peu respirer, puisque cette dictature qui a dominé le Chili et qui reste encore visible aujourd'hui par sa constitution, c'est la constitution de Pinochet qui nous gouverne au Chili. Elle a voulu donc noter tous les détails, et c'est la richesse de ces carnets m'ont permis le film. Donc un film, c'est
plein de choses.
Voilà, toutes ces petites dentelles qu'on met, on assemble ensemble.
Et votre écriture, et votre voix qui dit toujours votre présence, et vous disiez tout à l'heure le rapport à l'histoire. Vous n'oubliez jamais, Carmen Castillo, que c'est vous, depuis votre point de vue, depuis votre histoire, qui regardez tout cela. Je voudrais qu'on écoute la voix, j'allais dire les mots, d'une poète, Andrée Chédid, en 2002, sur France Culture.
Je trouve que dans la nostalgie, il y a un peu de tristesse et peut-être de l'aigreur, finalement. Et ça, je suis complètement hostile à ce genre de sentiment. Et non, je n'essaye pas de me remémorer le passé ou bien les choses qui sont pénibles ou de ressasser. Ça, je n'aime pas ça du tout. Je ne le fais pas. Je suis davantage dans le présent et puis dans l'avenir aussi. J'essaye de regarder à l'avant. Et la poésie aide à ça quand même, parce que elle essaye de s'impliquer dans le vrai réel qui est derrière le réel que nous imaginons, et elle essaye d'interroger sur la vraie valeur de la vie, sur la vraie valeur du souffle, sur tout ça. Donc j'ai été assez guidée par cela, je pense.
La voix de Andrée Chédid, poétesse, donc en 2002 sur France Culture. Carmen Castillo, on a à la fois parlé du texte de Chris Marker dans ce film de 1975, oui. Un texte important parce que, selon vous, il touche au vrai en passant par le poétique, en passant par la fiction. Et je signalais à l'instant votre présence à vous dans vos films qui passe par plein de trucs, le montage, l'inventivité, mais aussi l'écriture, mais aussi la manière dont vous tenez tout ça ensemble. Andrée Chédid, elle dit que c'est cet endroit poétique qui l'aide à toucher le réel. Qu'est-ce que vous diriez, vous, de la manière dont vous écrivez ces choses-là, c'est-à-dire pas que factuel, pas que je vais raconter. Il se passe autre chose dans ce que vous écrivez, Carmen Castillo.
Oui, et j'aime beaucoup ce qu'elle a dit aussi par rapport à la nostalgie. Et parce que je pense que si je n'avais pas eu la force grâce aux rencontres que j'ai fait à Paris à la fin des années 76 avec Gilles Deleuze, Guattari, dont la boutique qui ouvrait Agnès B dans les Halles, et que j'avais pas croisé ces destins de ces personnes qui circulaient partout dans tous les milieux, je n'aurais jamais pu détruire la nostalgie et détruire le culte à la mort et au sacrifice. Je n'aurais pas fait l'éloge de l'oubli, et je n'aurais pas pu donc aller chercher des mots aujourd'hui, des mots denses, amples, avec une belle sonorité, pour donner des lignes de fuite à une histoire. Donc, dans Rue Santa Fe, par exemple,
qui est un précédent film, qui part, et vous ne cessez de dire d'ailleurs dans ce texte, c'est tellement beau que la mémoire vous ramène à la maison.
Voilà.
À cette maison de la rue Santa Fe, je vous laisse en parler.
Voilà, rue Santa Fe, c'est ce film présenté en 2007, mais qui a été déclenché par, encore une fois, le geste de bien de mon voisin de cette rue, a pris le corps blessé de cette femme que j'étais, qui perdait du sang, qui était enceinte et qui a osé traverser les balles, affronter les militaires, me monter dans une ambulance. Enfin, je suis là avec vous ce soir, et c'est lui. Et je n'avais pas cherché à savoir comment tout ça s'était passé. Donc ça a déclenché enfin le désir de raconter l'histoire des vies engagées, la mienne et d'autres.
C'est lui, je veux juste préciser pour les personnes qui ne connaissent pas du tout cette histoire, c'est lui, ce voisin, qui, comme ça, porte secours à la femme que vous êtes, vous permet d'être hospitalisée et vous sauve la vie.
Exactement. Et nous sommes donc dans rue Santa Fe, une petite maison bleu ciel à l'époque, où j'habitais clandestine avec Miguel et nos deux filles, une vie normale, une vie belle, intense, sans peur à l'intérieur de la maison, et où nous avons mené donc un travail clandestin pour la résistance pendant plus d'un an. Et ce voisin Manuel, voilà qu'il va enclencher enfin en moi le désir de raconter ses vies et les nôtres. Hein, les nôtres d'une organisation politique particulière qui était l'OMIR. Et voilà que je posais la question, est-ce que ça a valu la peine? Est-ce que tous ces morts, est-ce que toutes ces souffrances, est-ce que l'exil, qui est quand même une souffrance, on reparlera. Mmh. Bon, et est-ce que tout cela, eh bien, ces 5 années de travail autour de ce film, je peux vous dire avec la plus grande sincérité, vérité profonde, que oui, ça vaut la peine. Ça vaut toujours la peine de lutter, de résister, d'avoir des vies pleines d'intensité avec les autres. Parce que c'est pas du tout rester collé au passé. C'est rester, au contraire, ouverte au présent, à l'écoute, et moi je dis tout simplement ne pas s'ennuyer. Et c'est très ennuyeux d'être tout seul devant une télévision ou de croire que la petite famille, la petite chose, derrière des murs protégés. Ce qui est vraiment passionnant, c'est d'avoir la curiosité des autres et surtout de faire des choses avec d'autres. Je fais du cinéma parce que c'est une création collective. Je ne sais rien faire toute seule. Et je pense que c'est tout simplement très clair qu'on ne pense jamais tout seul. On pense avec d'autres, les morts et les vivants. Et donc, ces choses toutes simples, on les a oubliées dans le monde d'aujourd'hui. On pense que l'individu tout seul doit s'en sortir, est capable, qu'il peut s'en passer, et que les autres, c'est des étrangers, c'est des ennemis, ils font peur. Et ben non, moi je dis, c'est vrai, nous sommes d'une génération, et nous avions une vision, une religion de l'histoire. On croyait, on était convaincus qu'on vivrait la révolution à l'échelle de nos vies. On était convaincus qu'on faisait ces actions politiques révolutionnaires avec, toujours liées aux gens, jamais comme un appareil, non? Et on était un mouvement, un CERED dans la société. Eh ben, tout ça s'est effondré avec, cristallisé avec la chute du mur de Berlin. Et après, il y a eu quoi? Qu'est-ce qu'on faisait après? Puisqu'il n'y avait pas cette vision claire que des lendemains qui chantent, d'une société communiste qui adviendrait. Ben, il n'y avait plus rien. Et ben, moi, là, c'est mon film On est vivant. Là, là, je suis tombée dans un moment de mélancolie profonde, cette mélancolie de gauche dont parle Enzo Traverso, avec la mémoire des vaincus dedans, qui dit, bon, mais il faut que je continue pour racheter à l'échelle de ma vie tous ceux qui sont restés dans le chemin, qui ont éclairé les chemins de l'histoire de l'homme, de l'humanité. À ce moment-là, qu'est-ce qui apparaissait clair? C'est que l'engagement politique était un pari incertain, non plus avec des certitudes, sans Bible, indispensable, mélancolique, parce qu'il y avait cette inquiétude, mais qui vise l'avenir. Et j'ai trouvé filmé des expériences de mouvements sociaux en Amérique latine, en France, de longue durée, qui montraient que le désir de ces trois mots, liberté, égalité, fraternité, ces trois mots qui doivent marcher ensemble, qui doivent se tenir dans une étreinte. C'est pas trois mots qu'on peut séparer. Et on peut revenir sur chacun. J'ai beaucoup réfléchi à ces trois mots dernièrement. Mais voilà. Mais ils marchent ensemble. Eh ben, ce désir, c'est extraordinaire, mais on peut pas l'arrêter, ce désir de justice. Donc, au Chili, j'ai envie de parler du Chili d'aujourd'hui, je reviens là du Chili. Le soulèvement qu'on vit depuis presque 4 mois, qui ne s'arrête pas, est à regarder depuis la France, depuis partout dans le planète, parce que le Chili de Pinochet, le Chili des 30 années de démocratie, entre guillemets, c'était le système parfait marchand néolibéral. C'était l'exemple. Le Chili était présenté comme le pays de l'exemple. Là, les choses marchaient très bien. La croissance économique, le per capita, enfin, les indices économiques. Je disais toujours, depuis des années, il n'y a pas un pays plus cruel que le Chili. Une société plus cruelle.
D'ailleurs, Patricio Guzman, qui est venu plusieurs fois ici à ce micro, dit que cette fameuse réussite néolibérale vantée pendant des années, depuis l'Europe et le reste du monde, elle se faisait beaucoup à la force d'un recouvrement de l'histoire et d'un oubli à la fois national et intime dans les familles. Il a beaucoup dit ça, donc c'est assez intéressant que vous dites que qu'on puisse mettre de manière assez concomitante des soulèvements, des mouvements sociaux et une manière, pour le dire très vite, de retrouver la mémoire.
Voilà, voilà. Mais c'est passionnant, c'est passionnant, parce que vous avez aujourd'hui au Chili, dans chaque quartier du nord au sud, dans les rues, dans la place, avec les jeunes, avec les capuches, avec les féministes armés, avec leurs cris, vous avez les expériences et les icônes et les musiques et les sons et les mesures politiques, économiques qu'Allende avait fait. C'est les mêmes.
Vous voulez dire dans les revendications populaires ?
Eh oui. Qu'est-ce qu'on demande ? Nationalisation. Parce qu'au Chili, tout est privatisé. L'eau, la mer, les ressources naturelles, bien sûr, la santé, l'éducation, le transport, tout. Et qu'est-ce que les gens demandent ? Ils demandent d'abord que l'eau redevienne un bien commun. L'eau. Alors, Allende est là.
Ça me fait penser presque au début, je crois, de Calle Santa Fe, Rue Santa Fe, un de vos films, Carmen Castillo, dont on va entendre un extrait, où il est question du droit à la terre. Il y a des images de personnes qui revendiquent le droit à la terre en disant « on ne peut pas payer pour la terre, si on payait pour la terre, il faudrait aussi payer pour de l'air ». On écoute un extrait de Santa Fe, vous interviewez une journaliste.
On peut penser qu'ils n'étaient pas heureux, ils ne s'amusaient pas, mais non. On était heureux autrement. C'est tout. Nous trouvions que nos actions, notre vie, avaient du sens. Je ne pourrais rien faire de plus important dans le temps qu'il me reste à vivre que ce militantisme-là. Tu es une femme, journaliste, militante du MIR, publique et connue, très recherchée. Et tu décides de rester. Je ne pouvais rien faire que mon peuple n'aurait pas pu faire. On ne pouvait pas mettre tout le Chili dans une ambassade. C'était donc une honnêteté élémentaire pour moi. Que ce soit bien clair, pour moi. Les autres avaient le droit de faire d'autres choix. Moi, je n'aurais pas pu partir avec la conscience tranquille. J'avais écrit des articles en tant que journaliste. J'avais parlé dans différentes réunions. J'étais allé dans les poblaciones, parler avec les habitants. J'avais enseigné des choses. Je ne pouvais pas dire donc, tout ce que j'ai dit. Maintenant vous le faites, et moi je m'en vais.
France Culture, par les temps qui courent. Marie Richeux, avec Carmen Castillo.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los cinco minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
D'abord, on a entendu cette chanson interprétée par Victor Jara et ensuite Carmen Castillo à l'instant dans une vidéo amateur, une femme mystérieuse l'interprétant à la fenêtre d'une cité d'immeubles pendant le couvre-feu au Chili et on voit toutes les fenêtres qui s'allument. C'est ça?
Le couvre-feu maintenant.
Le couvre-feu maintenant.
Voilà.
Et oui. On voit toutes les fenêtres qui s'allument dans les immeubles et la voix circule et puis on voit vraiment plein de petites personnes qui arrivent à leur fenêtre et qui se demandent d'où ça vient. Et quand le chant est fini, ils l'applaudissent chaleureusement.
Voilà, voilà. Victor Jara, c'est l'un des premiers qui a été chanté et pris par une population qui est devenue un peuple. En 3 mois, les gens sont devenus un peuple, le peuple du Chili. Et la mémoire est venue d'abord par la musique. Elle est venue par 2 chansons de Victor Jara. Et aujourd'hui, quand j'entends El pueblo unido jamás será vencido, la chanson emblème de l'unité populaire que je n'ai pas pu chanter pendant toutes ces années, que je ne chante qu'aujourd'hui avec cette immensité d'avenue Alameda, qu'Allende dans son dernier discours avait dit « Un jour, vous reprendrez, vous » parce que ça a été mal traduit. Il dit « Tomarán, vous, le peuple, vous allez reprendre l'Alameda ». Et cette Alameda démarre et traverse le centre-ville, la Moneda, etc. Et la place dans laquelle l'avenue démarre s'appelait Place Italia et aujourd'hui elle est baptisée Place de la Dignité. Et elle est occupés, les forces spéciales de police et l'armée pendant ce couvre-feu dont vous faites référence au tout début du soulèvement, par des personnes. J'ai passé par exemple le 31 décembre et c'était une fête des, et surtout pour les jeunes qui forment la première ligne qui protège les manifestants et les gens de mon âge, il y en a plein, et les enfants qui se retrouvent par vous avez entendu, parfois c'est des centaines de millions, parfois c'est 1,5 million, enfin il y a eu des énormes rassemblements, mais ça continue, moins nombreux, mais aussi créatifs, aussi inventifs, et protégés par des jeunes qui mettent les capuches, qui sont adorés, aimés par tout le monde, qui ont dit de le pouvoir, dit d'eux que c'est des vandales, des lune-peines et des violents, mais ces jeunes, je les connais, pas tous, mais j'en ai pu écouter et filmer avec certains, c'est des jeunes, parfois, oui, des jeunes qui vivent dans la rue, qui sortent de des institutions d'orphelinat, qui ont une conscience politique accélérée, un langage et voilà une bonté. Donc c'est on n'est pas, on ne sait pas ce qui va se passer au Chili, on ne sait pas, mais ce soulèvement contient la mémoire, et quand il y a mémoire, il y a un contenu, il y a des références, il y a des anges. Moi je parle Allende. Et il y a un grand artiste muraliste qui travaille les murs, parce que les murs parlent, écrivent, vous connaissez ça aussi, en 68, là-bas, c'est le centre-ville, les murs de partout, les quartiers éloignés, c'est de la poésie, comme, hein, c'est de la poésie. Et cet artiste fait des anges. Et donc, je pensais à l'ange de la barricade qui répondrait à l'ange de l'histoire de Walter Benjamin. Hein, parce que Benjamin, c'est mon inspirateur fondamental pour continuer vivante l'engagement politique et le principe d'espérance sans lequel on peut pas vivre. Si lui me disait se laisser penser par le passé plutôt que penser le passé, l'ange de la barricade, inspiré d'un autre tableau écrit par un philosophe, un jeune ami philosophe d'Argentine, il a un visage multiple et les ailes dépliées, non pas le visage marqué par les ruines du passé, comme l'ange de Walter Benjamin. Celui-là, il est multiple dans son visage et il ouvre les ailes, il regarde le présent. Et dans les ailes déployées, il appelle les morts et les vivants et, on pourrait dire, à créer une communauté, parce que c'est pas parler de communauté, c'est facile à dire, c'est parfois trop dit, on n'explique pas. En fait, c'est la création avec les divers, avec ceux qui n'ont pas de communauté. Et ces jeunes, qui ont souffert, qui n'ont plus rien à perdre, vraiment, et ça c'est vrai qu'ils n'ont plus rien à perdre, qui nous ont appris à toutes les générations qui avaient subi le coup d'État, à ne pas avoir peur. Et le plus important, c'est quand on perd la peur. C'est l'ennemi plus puissant, quoi. C'est plus puissant que les multinationales, que la police, que l'armée. On perd la peur et on devient puissant. Et c'est ça qui se retrouve dans ces rues et aussi dans ces assemblées populaires qu'on appelle cabildo, où se retrouvent des noyaux de personnes qui élargissent aux voisins, qui se parlaient pas, qui se méfiaient, dans les quartiers populaires, la barbarie, les bandes de délinquants, les narcos. Ben maintenant, c'est cette populations se retrouvent, se parlent, occupent les petites places dans ces lieux très détériorés et discutent sur la nouvelle constitution. Donc, vous voyez, moi je suis... bon, je vis un moment...
À l'écoute.
Ah ouais.
Très ça à l'écoute de ce qui se passe là-bas.
Ouais. Oui, parce que justement, on a des lectures à faire. Hein. On a à relire Walter Benjamin, on a à relire Hannah Arendt, on a à relire des grands penseurs qui nous ont aidés à vivre dans des moments difficiles. Et tout cet imaginaire qui est recréé aujourd'hui dans cette insurrection citoyenne au Chili, je voudrais le faire partager en France, parce que ce qui, je trouve, comment alerter un pouvoir aveugle, ici et là-bas, devant le fait que, ici, ce pays que j'aime, le mien, la France, on est en train de détruire tout ce qui faisait sa force, détruire Radio France, détruire les retraites, pour implanter des retraites qu'au Chili sont prouvées depuis 40 ans, que c'est la misère. C'est le même système par privatisation et capitalisation. Et le monsieur, le frère du président Piñera, siège à Washington dans des bureaux conseils dans lesquels il est en train de conseiller toute l'Afrique et le monde entier que ce système de retraite par privatisation et rentabilisation, donc par action, est bon. Et ce système mène des professeurs, des instituteurs, des infirmiers, même des ingénieurs à des retraites de misère. Ne parlons pas donc de la retraite des femmes du peuple, qui travaillent toute leur vie comme aides-soignantes, comme employées domestiques, comme institutrices. C'est rien, c'est 200 euros par mois maximum. Et c'est ça, je me dis, je vis dans une schizophrénie, parce que là-bas, il y a un peuple qui se soulève pour redemander un État fort qui redistribue et qui s'approprie du mot égalité. Non pas pour faire un programme, parce que l'égalité, c'est pas quelque chose qu'on aura dans le futur, c'est au présent, c'est un principe, c'est une déclaration. Et donc, on prend conscience et on agit, on exerce.
Très bien. Bien que chacun agisse et exerce. Carmen Castillo, vous êtes au programme à l'honneur, que dis-je, du FIPADOC, Festival International du Documentaire, du 21 au 26 janvier à Biarritz. On pourra voir le film dont nous avons parlé, Chili 1973, une ambassade face au coup d'État. Ce sera le 26 janvier sur France 5 et pendant une semaine en replay. Merci beaucoup.
Merci.
Ce soir, la prise de son, c'était Olivier Arnay. À la réalisation, Lise-Marie Barré. Par les temps qui courent, c'est plein de monde. Romain Debecq de Lièvre, Jeanne Aléos, Julie Ascaï, Marianne Chassor. C'est aussi une page sur France Culture, Par les temps qui courent, et un podcast via l'appli Radio France. À 22h, bientôt le journal.
Allí se estira y arde la más alta hoguera. Mi soledad queda vuelta a los brazos como un náufrago. Hago rojas señales sobre tus ojos ausentes, que olean como el mar a la orilla de un faro. Los pájaros nocturnos picotean las primeras estrellas que centellean como mi alma cuando te amo. Y galopa la noche en su yegua sombría, desparramando espigas azules sobre el campo.